أحبائي في الله، الله سبحانه عز وجل يقول في كتابه العزيز: وإنه لكتاب عزيز. سورة فصلت. Ce livre, الله سبحانه عز وجل il parle du Coran. Il dit qu'il est aziz.
Comment tu dis aziz en français? Glorieux?
Puissant. Le Coran il est puissant. والله سبحانه عز وجل il dit sur ce Coran même encore, il dit: تلك آيات الكتاب الحكيم. الله سبحانه عز وجل يقول القرآن صاج صاجس. فمن شيخ فخير الله سبحانه عز وجل يجي إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. La gloire elle revient à الله سبحانه عز وجل et au prophète عليه الصلاة والسلام et aux croyants. Et الله سبحانه عز وجل يجي dans un autre verset فلا تهنوا ولا تحزنوا. Ne faiblissez pas, ne soyez pas tristes. Antumul a'launa, vous êtes les plus hauts. In kuntum mu'minin. Mais ce n'est pas le cas, chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous devriez être les plus hauts. Vous devriez être les plus glorieux. Vous devriez avoir la gloire. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est éloigné du Coran. Hada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hada kalamullah. Nous cherchons la gloire. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous expliquer que si vous voulez la gloire, tenez le Coran en main. Vous voulez la sagesse, prenez le Coran en main. Vous voulez l'ilm, prenez le Coran en main. Vous voulez l'ulou, être les plus hauts, prenez le Coran en main. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite dans beaucoup de versets à revenir au Coran. Et le prophète alayhi salam, il dit avant de mourir, taraktu fikum shay'ain. Je vous ai laissé deux sources, deux choses. Si vous les prenez bien en main, vous ne vous égarerez jamais. Je vous ai laissé le Coran ou la Sunna. Mes chers frères, vous savez qu'alhamdoulilah, on s'est réunis. Ce n'est pas de notre plein gré. La preuve, quand l'adhan est fait hayya ala salah, qu'est-ce que tu dis? Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire que j'ai point de ruse, point de force, que si Allah va me faciliter d'aller à la mosquée. Enfin, chaque chose qu'on fasse, qu'on fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous faciliter. Enfin, là, si on est venu, on s'est réunis, ce n'est pas de notre plein gré. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu dans nos cœurs l'envie, l'avidité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a amené ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Un, je sais, c'est pour un rappel. Deux, c'est pour apprendre la science. Et le hadith Ahmad ibn Hanbal, radiallahu ta'ala anhu, il dit: je ne connais pas, après le fara'id, après les obligations, quelque chose qui est plus important et plus aimé عند Allah subhanahu wa ta'ala que talab al-ilm. Je ne connais pas. Allah Ta'ala le dit dans le Coran: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce qu'ils sont équivalents? Ils sont pareils, les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Celui qui a la science, Allah Ta'ala, يوم القيامة, va s'en servir comme un. Pour lui, ça va être un ascenseur, la science. اقرأ وارتقي ورتل. Lis, et chaque verset que tu lis, tu montes, de fur et à mesure. Falehada, mes chers frères, ne perdons pas notre temps. Le peu de temps qui nous reste, le peu de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on le consacre à la science. Mes chers frères, vous avez vu, là, on est tous sélectionnés par Allah. Allah nous a choisis. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah t'a choisi, que peut-être après un an, deux ans, plus ou moins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre parmi les gens qui vont apprendre. Ou peut-être il va te mettre parmi les gens qui vont apprendre, mais cette science que tu vas apprendre, elle va te maudire. Peut-être Allah Ta'ala va te mettre parmi les gens qui vont apprendre la science, mais cette science, elle va te rentrer à l'enfer. Vous connaissez les premiers qui vont rentrer à l'enfer? Parmi eux, quelqu'un a pris la science. Dans une autre version, il a pris le Coran. Voilà, pourquoi tout ça? Pour que les gens montrent du doigt. Quelqu'un, vous l'avez lu dans le tafsir du Coran, Bal'am ibn Ba'ura, Yahudi, alim min al-ulama. Il était savant. Kana 'indahu 'ilm kathir, beaucoup de science. Mais regardez le shaitan comme il attaque la personne. Il est venu le voir doucement, il a taquiné, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit sur ce savant qui était savant, c'était un musulman, croyant, savant. Fait regarder Allah Ta'ala comme il a rabaissé. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. On lui a donné la science, hikma, آيَاتِنَا فَانْصَلَخَ مِنْهَا. Il s'est dépecé de la science. Comme tu dépeces la peau d'un mouton, il s'est dépecé de la science. C'est écarté. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ. Il n'a pas dit فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانِ. الشَّيْطَانِ, il s'est mis à le suivre. Lisez le tafsir. Shaytan, il a suivi. C'est pour ça que le Hassan al-Basri, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, rahmatullah alayhi, il dit, avant, les gens apprenaient de Iblis. Aujourd'hui, Iblis, il apprend des gens. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ. Shaytan, il a suivi. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et Allah Ta'ala dit, وَلَوْ شِئْنَا, si on aurait voulu, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. On l'aurait levé. Comme Allah Ta'ala nous dit, comme le prophète dit dans un autre hadith, Rawahu al-Bukhari, إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامٍ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ. Avec ce livre, Allah, il élève des gens. Avec ce même livre, Allah Subhanahu wa Ta'ala rabaisse des gens. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Il a voulu dunya. Il a pensé à dunya. Se sacrifier pour dunya. Il a aimé dunya. Allah il a donné dunya. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Il a suivi sa passion. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Son exemple à lui, c'est comme l'exemple d'un chien. Ibn Qayyim al-Juzayy, il donne des exemples sur le chien. A dit, pourquoi Allah Ta'ala comme exemple a donné l'exemple du chien? Pas de la vache, pas du mouton, du chien. وَلَكِنْ نَحْنُ aujourd'hui, on n'est pas revenu à l'œuvre du Coran et on ne contemple pas. L'imam al-Tabari ibn Jalil, que vous connaissez tous, il dit, comment voulez-vous prendre goût au Coran si vous ne le comprenez pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Pourquoi ils n'essayent pas de contempler le Coran? Mais c'est trop dur pour nous le Coran. C'est kalamullah. Il est trop fort. Allah subhanahu wa ta'ala a baissé pour nous les gens faibles. Il dit, أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُ الْقَوْلِ. Un mot. Arrête-toi devant, essaye de le contempler. Pourquoi Allah t'a donné ça? Pourquoi Allah l'a donné l'exemple? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Mais ils vont venir les gens peut-être le jour du jugement, les gens bédouins. Il écrit, qui savent ni lire ni écrire. Ils vont dire, Allah, ce Coran, ils en ont profité, les gens qui savent lire et écrire. Mais nous, on est illettrés, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié aussi les illettrés. Allah subhanahu wa ta'ala donne aussi des exemples pour les illettrés. Vous ne savez pas lire? Vous ne savez pas écrire? Mais toi, là, qu'est-ce que tu fais? Tu es berger de chameaux? Afalam yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Allah Ta'ala se décrit, il se fait connaître par l'intermédiaire du chameau. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu es agriculteur? Allah il les défie par l'intermédiaire de l'agriculture. Toi tu es médecin, Allah Ta'ala te défie par l'intermédiaire de la médecine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça il viendra yawm al-qiyama, personne ne va dire, ya Rabbi, j'ai pas pu profiter du Coran. La wallahi ya ikhwa. Fakadhalik, parmi les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on doit profiter, c'est qisasul anbiya. Qisasu al-anbiya. Qu'est-ce que ça veut dire qisasu? Al-qisas, les histoires, ça veut dire quoi? Dans la langue arabe, vous savez que qassa, yani taba al-athar, il a suivi les traces. Comme Allah Ta'ala l'a dit sur Moïse et son élève Yusha. Qu'est-ce qu'il a dit? Fartadda ala atharihima qasasa. Quand ils ont perdu le poisson, qu'il est sorti du panier, il est rentré dans l'eau. Et quand il a appris, il s'est rappelé le serveur, il a dit à Moïse, ah, j'ai oublié de te dire que le poisson, pendant que tu faisais la sieste, le poisson est sorti du panier, il a regagné l'eau. Moïse a dit, dalika ma kunna nabghi. C'est ce qu'on voulait. Parce qu'Allah Ta'ala lui a fait, tu rencontreras le khidr, ou le khadir, le jour où tu perdras le poisson. Fartadda, ils auront fait retour. Ala atharihima qasasa. Enfin, le mot qissa dans la langue arabe, c'est-à-dire histoire en français, qissa, ça veut dire suivre les traces. Mais mes chers frères, pourquoi Allah subhanahu wa jal, il raconte les histoires, surtout les histoires des prophètes dans le Coran? Première des choses, c'est pour en tirer quatre choses. Première des choses, Allah subhanahu wa jal, il veut montrer aux juifs et aux chrétiens et à tous les autres que ce qu'il est en train de dire, le prophète alayhi salat wa salam, si je vais trop rapide pour les frères qui écrivent, vous me le dites, hein, parce que j'ai oublié moi. Marqué, premièrement, qissa, ça veut dire suivre les traces. Qissa, dans la langue arabe, ça veut dire suivre les traces. Pourquoi le qissa? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte les histoires dans le Coran? Qu'est-ce qu'on en tire nous? On en tire quatre sagesses, ya nuruddin. Quatre sagesses. La première sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait montrer aux gens d'avant, les juifs, les chrétiens, les adorateurs de statues, les adorateurs de soleil, des étoiles, etc., que Muhammad alayhi salatu wassalam, il est dans la vérité. Il est en train de vous raconter l'histoire de Moïse. Vous, les Houds, Vous avez la Torah entre les mains. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Et Mohammed, alayhi salam, il sait ni lire ni écrire. Donc, qui c'est qui lui a appris l'histoire de Moïse? Vous, les chrétiens, vous connaissez l'histoire de Jésus. Où est-ce qu'il est né? Comment il a fait avec sa mère? Mais lui qui est devant vous, il est gradué parmi vous. Il sait ni lire ni écrire. Il est en train de vous raconter l'histoire de Jésus de A à Z. Donc, ça fait montrer qu'il est dans la vérité. Il y a bien quelqu'un derrière lui qui est en train de lui apprendre. Et en plus, c'est vrai ce qu'il est en train de raconter. Ça coïncide avec ce que vous avez étudié. Donc, Allah Ta'ala défie les juifs, les chrétiens, etc. que les histoires qu'il est en train de raconter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait montrer qu'il est dans la vérité. Suivez-le. Et c'est pour ça que les juifs et les chrétiens savaient qu'il était dans la vérité. Allah Ta'ala dit dans le Coran, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ils connaissent la vérité, ils connaissent le prophète, ils connaissent le Coran comme ils connaissent leurs propres enfants. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Deuxième profit qu'on en tire, pourquoi Allah Ta'ala raconte les histoires des prophètes, alayhi salatu wasalam, dans le Coran. La deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut en faire une preuve pour nous. Comme ça, Yom al-Qiyama, tu dis pas, je ne savais pas. Rasulan, mubashirin, wa mundirin, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja. Tu n'as pas Yom al-Qiyama, tu ne savais pas, etc. Allah ta'ala, il t'a envoyé des messagers pour venir t'expliquer. Comme ça, tu ne dis pas, Yom al-Qiyama, je ne savais pas. Rasul, ils vont venir. Ils vont prendre leur défense. La deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre la preuve. Parce qu'Allah dit dans le Coran, je ne châtie jamais tant que je n'ai pas transmis le message. وَمَا كُنَّ مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah ne châtie pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désaccords entre les savants sur les bébés kuffars qui meurent avant la puberté. Qui meurent avant la puberté. Vous savez qu'il y a un désaccord entre les savants. Et il y en a qui disent, dans le dunya, on les considère comme des kuffars. Il y en a qui dit il meurt musulman parce que chaque enfant qui tombe du ventre de sa mère, il tombe musulman. Et la troisième partie des savants, ils disent Yom al-Qiyama, ils vont être parmi les gens qui vont être jugés. Ahl al-Fitra. D'accord? Sans rentrer dans le sujet. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu mettre une preuve parmi nous que les messagers, ils sont venus transmettre. Ça, c'est la deuxième sagesse pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte les histoires dans le Coran. La troisième sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous mettre en garde. Attention, je suis en train de vous raconter l'histoire de Pharaon, l'histoire de Namrod, l'histoire du peuple de Sodome, pour pas qu'il vous arrive comme eux. Méfiez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans kitabih al-aziz, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leurs histoires, c'est-à-dire les gens qui sont venus avant Mohammed, dans les histoires des prophètes, Ibra, ça doit être un signe, les Oulil Albab, pour les gens conscients. Quand tu vois aujourd'hui la mère morte, que tu te rappelles, mais qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Attention, ce qu'ils ont fait, ne le fais pas. Pharaon aujourd'hui, qui flottait, aujourd'hui le ressorti, il tourne de musée en musée. Attention. Et Namrud, attention. Et aujourd'hui, Allah Ta'ala, il a laissé des palais, etc. du côté de Saoudia, le peuple de Houd et Salah, qu'ils ont égorgé la chamelle. Attention! Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé un signe pour nous, pour qu'on se méfie qu'il ne nous arrive pas comme il leur est arrivé. C'est la troisième sagesse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte les histoires des prophètes dans le Coran. Et la quatrième sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut consoler le prophète, alayhi sallam. Fasbir kama sabara ulul azm. Patiente, ya Muhammad. Tu es dans la vérité. Rasoul s'est fait cracher, il s'est fait insulter, on l'a frappé, on l'a rejeté, on l'a expulsé. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il lui raconte les histoires pour le consoler. Tu es dans la vérité. Regarde ce qui s'est passé à Moïse et Pharaon. Regarde ce qui s'est passé avec Ibrahim, avec Namrod. Regarde ce qui s'est passé avec Daoud. Regarde ce qui s'est passé avec Suleiman. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui racontant des histoires que Asbir, ce qui t'arrive, sont arrivés avant toi. Même pour nous, les gens qui suivent le chemin des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en test. Wa tawasaw bil haqqi. Les gens qui transmettent la vérité, qui sont dans la vérité, on est obligé de te faire, on est obligé de te critiquer. Allah Ta'ala te dit patiente. Ça, c'est les quatre sagesses. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte les histoires des prophètes dans le Coran. Samir, tu sais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte les histoires dans le Coran parce que croire aux prophètes, ça fait partie des piliers de la foi. Le hadith, vous le connaissez tous, il est rapporté par Omar, il est rapporté par Bukhari. Que Jibril, alayhi salam, un jour, il a pris l'apparence d'un être humain. Il est venu s'asseoir alors que Rasoul était entouré des compagnons. Le hadith, vous connaissez. Quand tu lui as dit c'est quoi les piliers de la foi, il lui a cité tu crois en Allah, aux anges, aux livres et aux prophètes. Faut que tu crois aux prophètes, ça fait partie des piliers de la foi. Mais pour croire aux prophètes, il faut que tu saches qui c'est les prophètes. Donc c'est pour ça qu'inchallah on va attaquer les histoires des prophètes, pour savoir qui sont ces prophètes. Donc sache que croire aux prophètes, c'est un pilier. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté des histoires? Tu as quatre sagesses que je viens de citer devant toi. Taïe. Yallah ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqara, « Aman al-Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. » On croit en tout, nous. En Yom al-Qiyama, en Allah, au livre, au Rasoul, les prophètes, tous. On croit en tous les prophètes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la différence qu'entre nous, les juifs et les chrétiens, Allah t'a dit dans le Coran, « Ha antum ha ula'i, ha antum ula'i, tuhibbounahum, wa la yuhibbounakum. » Vous les aimez. Allah t'a dit, il parle des gens du livre, il nous parle à nous. Vous les aimez, ils ne vous aiment pas. « Ha antum ula'i, tuhibbounahum, wa la yuhibbounakum. » Wa tu'minuna bil kitab kulli. Vous croyez au livre. Allah Ta'ala l'a cité le livre. Parce que la Torah, elle n'est pas venue contredire la Bible. Et la Bible, elle n'est pas venue contredire le Coran. C'est un seul livre. Bien sûr, avant qu'il le falsifie. Wa tu'minuna bil kitab kulli. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous on croit en Jésus. C'est un prophète, alhamdoulilah. Nous on croit en Moïse. Nous on croit en Uzair. Nous on croit en tout le monde. Pourquoi voulez-vous pas croire en Muhammad? Alej, limada. Ça te fait quoi de croire en Mohammed? Il a été même cité dans la Bible. Et avant, les Juifs, ils attendaient, ils savaient qu'il va venir un dernier prophète. Ya'lamouna tadik. Wa kanu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu. Quand il est venu, ils ont su que c'est lui, mais ils ne veulent pas le suivre. Kafaru bihi. Ils l'ont renié. Enfin, pourquoi on étudie l'histoire des prophètes? Parce que ça fait partie des piliers de la foi. Qui sont les prophètes? Man hum al-anbiya? Le troisième point, ou le quatrième, je ne sais pas où vous en êtes. Qui sont les prophètes? Les prophètes, ce sont des gens qu'Allah subhanahu azza wa jal, il a choisi pour une mission, ou pour des missions. Allah ta'ala dit, dans le verset, Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah yastafi. Allah y choisit parmi des anges, des messagers et parmi des gens, des messagers. Allah subhanahu wa jal, il choisit. Et qu'est-ce qu'ils ont de pourquoi ils sont différents de nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, je suis un être humain comme vous. Vous tombez malade, je tombe malade. Vous mangez, je mange. Vous dormez, je dors. Vous vous mariez, je me marie. Vous souffrez, je souffre. Vous vous êtes blessé, je suis blessé. Vous mourrez, je meurs. Ben, c'est quoi la chose qui nous différencie avec toi, cher prophète? Walakin, la chose qu'il a de plus que nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala yanzil alayhi al-wahy. La révélation, elle descend sur les prophètes. La différence qu'il y a entre nous, les êtres humains normaux, et les prophètes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la révélation sur les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit les prophètes, mais il leur donne la révélation. C'est les ambassadeurs ou les consulats d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les ambassadeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala des prophètes. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il est choisi. Quant à ce qu'on appelle Nabi, tant qu'il n'a pas la révélation, il ne s'appelle pas Nabi. Appelle-le homme pieux, appelle-le Wali, appelle-le Walou, appelle-le ce que tu veux. Quand est-ce que tu l'appelles Nabi? Quand est-ce que tu l'appelles Rasoul? Quand la révélation elle descend sur lui. Que ce soit pour transmettre le même message ou que ce soit pour transmettre un nouveau message. Tant que rien ne descend sur lui, on ne l'appelle pas Nabi. On l'appelle Wali. On l'appelle Rajulun Salih. Abdun Salih. Mais on ne l'appelle pas Nabi. Donc Nabi, c'est qui? C'est des gens qu'Allah il a sélectionnés pour leur donner une mission. Et on va savoir c'était quoi la mission des prophètes. Pour leur donner une mission. Et c'est quoi cette mission que vous allez savoir après? Oui, laquelle? Deux. Allah yastafi. Attends. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas, sourate al-Hajj, verset 75. Marche sourate al-Hajj, verset 75. Ensuite, tu veux un autre verset? Voilà, tu me dis. C'est quoi? Maintenant qu'on a su c'est quoi Nabi, c'est quoi la différence qu'il y a entre un prophète, Nabi, un prophète, et un messager? Pourtant, les deux sont envoyés par Allah. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'importe quel prophète qu'on a envoyé avant toi, ou messager, donc le prophète il est envoyé par Allah, et le messager il est envoyé par Allah. Le verset c'est Sourate Al-Hajj, verset 52, ce que je vais citer devant toi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ Donc il s'est envoyé les deux. Mais c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Il y a des ulama, rahmatullah et alim, ils ont dit il n'y a pas de différence. Nabi, c'est min al-naba. Amma yatasa'aluna 'an al-naba. Al-nabi, c'est le khabar. C'est-à-dire, il va nous mettre au courant d'un sujet. Donc, c'est pareil. Et messager, c'est celui qui transmet le messager. Lui, il va nous mettre au courant d'une nouvelle, et lui, il va nous transmettre un messager. Mais nabi ou rasoul, c'est pareil. Quelques savants, ils ont dit, ce sont les mêmes. Walakin al-sahih, la majorité des savants, ils ont dit non. Chaque messager est prophète. Et pas chaque prophète est un messager. Chaque musulman est un être humain. Et pas chaque être humain est un musulman. Tu vois bien cet exemple, c'est très important. Chaque messager est un prophète. Mais pas chaque prophète est un messager. Tu suis? Ça, c'est quoi la différence? La différence, c'est que le messager, Allah Ta'ala, lui donne une mission, il lui donne un message. Des commandements. Va faire ci, ou ne fais pas ça. Le prophète, quand il vient, il transmet le même message qu'il a transmis le messager. Il ne change pas. C'est ça la différence qu'il y a. Un nabi, yuballigh nafs ar-risal. Le prophète, quand il vient, il transmet le même message que celui qui venait avant lui. Il ne change pas. Ça, c'est nabi, prophète. Le messager, non. Il change, ou il diminue, ou il rajoute. C'est Allah Ta'ala lui dit rajoute, ou bien diminue. Ça, c'est le messager. C'est pour ça que Jésus, il est descendu messager ou prophète? Al-Jin. Messager. Mais quand il va descendre parmi les signes de la fin du monde, il va descendre messager ou prophète? Il va descendre prophète. Mais comment vous dites qu'il descend prophète? Il va rajouter, Jésus va descendre en série, le prophète Sam, il a dit sur lui, il va tuer le cochon, il va casser les croix, et il va enlever les impôts. Les impôts, c'est ça? Dix impôts, non? Les impôts. Donc il va rajouter. Rasoul a tué le cochon. Il a tué le cochon, Rasoul. Mais Jésus va tuer le cochon. Rasoul a cassé les statues. Comment vous appelez ça?
Croix.
La croix. Jésus va le faire. Rasoul a accepté les impôts. Jésus va l'enlever. Donc Jésus va redescendre messager. Non? T'as quel la mouille, quoi? Parlez un peu, je veux voir si vous avez compris. Vous êtes avec moi ou là je parle tout seul? Rachid. Quoi?
Non.
Non, quoi? Et regarde, il va rajouter, il va faire des trucs que le prophète il a pas fait. Je comprends pas moi, il va bien faire des trucs que le prophète il a pas fait. Alors celui-là a tué le cochon? Il nous a dit de tuer le cochon?
Mais ça faisait partie de sa mission déjà.
Qui?
Aïssa.
Aïssa, quand il est descendu messager. Pourquoi quand il est descendu messager, il n'a pas tué le cochon, il n'a pas... Si. Pourquoi il va le faire après, maintenant, parmi les signes de la fin du monde? Quand il va descendre, il va le faire. Il va rajouter des trucs que le prophète Mohammed, alayhi salam, il n'a pas fait. Oui, Soun.
C'est pas un rajout, parce que de toute façon, il a dit qu'il allait faire.
Barakallahu fik. C'est pas un rajout, parce que c'est confirmé par Mohammed, alayhi salam. C'est pour ça que même Isa, alayhi salam, quand il va descendre prophète, il va rien rajouter. Il va suivre ce qui t'aime, le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sur Moïse? لو كان موسى حيا. Si Moïse serait vivant, ما وسعه إلا تباعي. Si Moussa, alayhi salam, il serait vivant, il m'aurait suivi. Et tous les prophètes, c'est marqué dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné un pacte. Est-ce que le jour où je vais envoyer Mohammed, Allah a donné un pacte devant tous les prophètes, est-ce que le jour où je vais envoyer un homme qui s'appelle Mohammed, vous êtes prêts à croire en lui? Vous êtes prêts à le suivre? Ils ont tous dit oui. Et est-ce que ça s'est produit ou ça ne s'est pas produit? Celui qui va me dire oui, attention. Ça s'est produit ou ça ne s'est pas produit? D'accord. Produit ou non? Quand?
Quand il a fait le
mi'raj. Barakallahu fik. Et ça, le mi'raj, quand le prophète a fait le voyage nocturne, en redescendant, il a fait salat al-subh. Comme ils disent les ulama. Il y a des ulama, ils ont dit il a fait deux rak'at, il y a des ulama, ils disent les deux rak'at, c'était salat al-subh. Imam! Et tous les prophètes derrière lui. Enfin, ça s'est produit. Et alhamdoulilah. Enfin, c'est quoi la différence entre prophète et messager? Le messager, c'est celui qui amène un nouveau message ou des nouveaux commandements, ou il enlève. Et le Nabi, là, le prophète, il vient, il transmet le même message. Taïk. C'est quoi la particularité qu'ils ont, ces messagers-là, Khassa et son Nubuwa? La particularité de Nubuwa, d'être prophète, c'est quoi? Première des choses, sache que la particularité des prophètes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, t'as pas choisi. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah ta'ala, il sait où il met son message. Ce verset, c'est... attends, où je suis là? Surat al-An'am. Je la donnerai après, si je passe. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une donnée d'Allah, une faveur d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, iqamat al-hujja. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis pour que ça soit une preuve, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour nous. Rasulan, mubashirin, wa mundirin. Il vient nous annoncer les bonnes nouvelles et nous mettre en garde contre les mauvaises choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné quelque chose de khas, de spécial à ces prophètes-là. C'est quoi? Il leur a donné qu'il les a choisis. Deuxièmement, il leur a donné des miracles qu'on va voir après. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait que c'est des preuves entre nous et eux. Et chaque prophète, Allah ta'ala, il a envoyé, il parle la langue de son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Moïse. Qu'est-ce qu'Allah ta'ala lui a dit? Qu'est-ce qu'Allah ta'ala a dit à Moïse? Un akhrijhum min al-dolomet il al-nur. T'as Moïse, il parle avec son peuple la même langue. Et Mohammed, il parle avec son peuple la même langue. C'est de ça qu'ils en tirent les ulama, que al-ahsan wal-afdal, comme il a dit Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, de préférence, quand quelqu'un se met à faire un discours, même khutbat al-jumu'ah, le discours du vendredi, il doit parler la langue de son quartier ou de son peuple. Si les gens qui sont en face de toi ils parlent en français, tu fais khutbat al-jumu'ah en français. S'ils comprennent l'arabe d'Erija, l'arabe de tribu, tu dois parler l'arabe de la tribu. S'ils parlent des gens en face de toi, ils parlent l'arabe fasih, c'est-à-dire la langue arabe pure, tu parles en face d'eux langue arabe pure. Parce que le but du prophète, c'est de faire comprendre les gens. Et toi, l'imam, ton but, c'est de faire comprendre les gens. Et toi, celui qui fait le discours, ton but, c'est de faire comprendre les gens. Si en face de toi, ils sont 95 à ne pas comprendre l'arabe, ils sont 2, 3. Et toi, tu te mets à parler la langue arabe en utilisant la grammaire et la conjugaison. Et qu'est-ce que tu as servi? Hadou Yom Al-Qiyamah, ils vont dire à Rabbi, il va rester un avec toi. Il va mourir l'un d'eux. Yom Al-Qiyamah, il va dire à Rabbi, il était avec moi. Un, il m'a jamais dit, je ne savais pas, moi, il parle en arabe. C'est pas pour moi. Les Had al-Ulama, ils disent que chaque prophète, il parlait la langue de son peuple même. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous. Allah Ta'ala dit, هو الذي في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Allah Ta'ala dit, c'est lui qui a envoyé à la communauté illettrée un prophète parmi eux, رسولا منهم يتلو عليهم. Il parlait leur langue, il n'est pas venu avec une langue qu'il ne comprenait pas. طيب. C'est quoi le but des prophètes? Maintenant qu'on a su c'est qui le prophète. Mais après on va savoir c'est quoi le but, après le nombre. C'est quoi les buts, la mission des prophètes? Al-ulama, la majorité des savants, ils disent, tous les prophètes, ils sont venus pour trois choses. Samir, trois choses. Un, la première des choses qui sont venus, tous les prophètes, faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens. Ou bien diriger les gens vers Allah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoulan. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رسلا مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين. Tous les prophètes, la première mission qui sont venus, faire connaître Allah chez les gens ou bien diriger les gens vers Allah. Ça c'est la première mission. La deuxième des choses que tous les prophètes ils ont fait, mettre en garde leur communauté sur Yom al-Akhirah. Attention, Yom al-Akhirah, Jannah, Nar, Maut. Mettre en garde leur communauté sur l'akhira. C'est pour ça que beaucoup de communautés ils reniaient devant leur prophète le jour du jugement. Comme il disait Kufar Quraysh, in hiya ila hayatuna dunya, namut wa nahya. Il va avoir un ressuscité. comme il venait un des kuffars devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je pense que c'est Wa'il ibn al-As ou Walid ibn al-Mughira, il venait, il a pris un os et il lui dit: Ya Muhammad, tu prétends que ton Dieu il va me ressusciter après, il va me ressusciter après que je vais être mort et je vais me décomposer comme cet os? Allah subhanahu azza wa jalla a fait descendre les derniers versets de sourate Yassin. Allah subhanahu azza wa jalla, la première création, elle est toujours plus difficile. La première création, quand tu vas construire une voiture, ou bien tu crées une lettre, faire des photocopies après c'est facile. Le plus difficile c'était la première lettre. Allah subhanahu azza wa jalla dit dans le Coran: Wa huwa ahwanu alayhi. Allah subhanahu azza wa jalla a créé ce bas monde. Ça va être facile pour lui de recréer une deuxième fois, une troisième fois, de recréer une deuxième fois. Allah subhanahu azza wa jalla dit dans les premiers surat al-qiyama: La uqsimu bi yawm al-qiyama wa la uqsimu bin nafs al-lawwama. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يكروس تتر humain qu'on va pas rassembler ses os. أن لن نجمع عظامه؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانه. On va redresser ce petit truc qui est difficile là, un de ses doigts les plus difficiles, qui est très petit, minutieux, délicat, précieux, on va te le remettre. Et les ulama sont allés loin à chercher pourquoi Allah Ta'ala a cité le doigt. Parce que dans ce doigt là, c'est ajib. Tu trouves aujourd'hui des jumeaux. Quand on contemple l'être humain, Allah subhanahu azza wa jalla, il dit ajib. Allah ta'ala dans le Coran, il dit: Wa ayat fi anfusikum. Des miracles en vous-même, vous ne le voyez pas? Des miracles en vous-même. Allah ta'ala nous dit dans le Coran: On a été créé du sperme. Une goutte de sperme. Une goutte. L'origine, c'est une goutte de sperme. Ou deux, peu importe. Walakin, de cette goutte de sperme, regarde en toi combien de liquides tu comportes. Différents liquides. Et l'origine, c'est un. Le liquide du cerveau, il est à part. Le liquide des yeux, il est à part. Le liquide du nez, il est à part. Le liquide des oreilles, il est à part. Le liquide de la salive, elle est à part. Plus l'urine, plus le pu, plus la femme, elle a le lait. Tout ça, son origine, c'est le sperme. Allah subhanahu azza wa jalla dit ayat fi anfusikum. Aujourd'hui, on trouve, subhanallah, deux jumeaux. On trouve deux jumelles. Elles ont la même tête, ou ils ont les mêmes yeux. Ils se ressemblent. Des fois, les parents, ils ne peuvent même pas différencier. Voilà que tu ne trouveras jamais quelqu'un qui a les mêmes empreintes que quelqu'un. Jamais. Falihada, quelques savants, ils ont cité pourquoi Allah il a cité le doigt. C'est pour citer les empreintes. Personne de nous a les mêmes rayures, les petites rayures dans les doigts là. Personne de nous. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est très facile. Najma'uhu. Je rassemble ses os et je vais le remettre comme il était. فلهذا الله سبحانه عز وجل الكفار قريش يكويسا فالله سبحانه عز وجل les met en garde. Tous les prophètes, ils sont venus pour diriger leur communauté vers l'au-delà. Deux, on a dit au début, c'est quoi? Ils guidaient les gens vers Iblis. Qu'est-ce qu'on a dit?
Allah.
Ils guidaient les gens vers Allah. Et le deuxième, ils met guider les gens
au-delà.
Allez travailler. Pour le jour du jugement. Et la troisième des choses dont les prophètes ils apprenaient à leur communauté, al halal wal haram. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il y avait Kofar Quraysh, il tuait des grenouilles. Qu'est-ce que vous faites avec ça? On fait avec des médicaments. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu nous interdire quelque chose, il y a un bien pour nous. Et quand il est venu nous dire faites cette chose, il y a un bien pour nous. Alors Sémi a dit ne tuez pas la grenouille. Je ne sais pas où ce que vous dites des médicaments. Alors Sémi a dit son bruit qu'elle fait la grenouille, c'est tesbih. Le bruit qu'elle fait la grenouille. Donc cela passe. C'est tesbih. Le professeur Sémi nous a interdit de tuer la grenouille. Par contre, quelque chose qui est mauvais pour nous, Allah nous l'a interdit. C'est interdit de manger le rat. C'est interdit de manger le serpent. C'est interdit de manger le scorpion. C'est interdit de manger le corbeau. C'est interdit. Allah Ta'ala, quand il nous interdit quelque chose, c'est qu'il y a un bien pour nous. Et quand il nous a dit de faire cette chose, c'est qu'il y a un bien pour nous. Donc, les prophètes, ils sont venus avec trois choses. Trois missions. Tous les prophètes. Faire connaître Allah subhanahu azza wa jal, le jour du jugement, et leur apprendre l'islam ou le halal, haram, etc. طيب Combien ils étaient les prophètes? Le hadith il est rapporté par le musulman Ahmed et Ibn Hibban. Le compagnon c'est Abu Dharr. Il y a eu 124 000 prophètes. Suivez bien parce qu'après je questionne. Hein? Il y a eu 124 000 prophètes. Allah t'a dit dans le Coran. « Wa rusulan qad qasasnahum alayk, wa rusulan lam naqsushum alayk. » Des prophètes, on t'a mis au courant à leur sujet. Et des prophètes, on t'a pas mis. Combien de prophètes ils sont cités leur nom dans le Coran? 25. Le reste, il n'est pas cité. 124 000 prophètes. Parmi ces 124 000, 313 messagers. Et dans une autre version, 315. Mais celle de 313 est le plus véridique. 313 messagers. Le reste, c'est tous des prophètes. C'est pour ça que réviser tafsir le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit blâme les Yahoud en disant wa yaqtuluna an-nabiyyin, ils tuent les prophètes, l'imam al-Tabari rapporte qu'en un jour, ils parviennent à tuer 70 prophètes. Parce qu'Allah ta'ala, il fait dans prévalent comme ça, Allah ta'ala, des fois, à l'époque d'avant, il mettait dans un quartier comme prévalent, il mettait 100 prophètes. Deux, trois. Des fois, Allah ta'ala, on trouve même dans le Coran, dans le même temps, 3-4 prophètes. Il y avait Ibrahim alayhi salam qui était en Palestine en même temps, Saoudia. En même temps, il y avait l'autre qui s'occupait de la Jordanie. En même temps, il y avait Ismaïl qui était de l'autre côté, Saoudia. Et en même temps, il y avait Ishaq. Quatre prophètes en même temps. Comme on trouve à l'époque de Moïse, il y avait Moussa, wa Haroun, wa Shu'aib et Yusha. Quatre prophètes en même temps. Et des fois, on ne trouve pas. Allah subhanahu wa ta'ala, entre Jésus et Mohammed alayhi salam, il n'a pas envoyé. Et quand il est venu le prophète Mohammed alayhi salam, il est venu seul, mais pour tout le monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Pour tout le monde. Donc combien ils étaient? 124 000. Parmi ces 124 000, 313 messagers. Comment tu t'appelles, mon frère? Yassine. C'est quoi la différence entre messager et prophète?
Messager.
Oui. Si tu réponds bien, ben ton père il va te faire un petit cadeau. Si tu réponds pas, déjà il y a une paire de chaussures 44 qui t'attend. Tu sais pas? Samir, dis-lui.
Le messager, c'est celui qui transmet le message.
Oui.
Qui peut être changé. Et le prophète, c'est...
Enfin, c'est celui qui fait la prière.
Le prophète, c'est celui qui ne change pas le message.
Ah, machallah. Sixième point ou septième point, je ne sais pas où vous en êtes. Tafdhil al-anbiya. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes et il les a. Tafdhil, comment tu dis, différencié? Mais comment tu dis?
Favorisé.
Voilà. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et il les a favorisés. Il y en a mieux que d'autres. Allah ta'ala a dit par exemple wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd. Le verset c'est Sourate Al-Isra, la sourate de voyage nocturne, verset 55. Ou bien dans Sourate Al-Baqara, Tilka Rusul, Faddalna Ba'dahum ala Ba'd. Vers la fin de Sourate Al-Baqara, Tilka Rusul, ces prophètes-là, Faddalna. On a favorisé d'autres prophètes à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 124 000 Khairuddin prophètes. Et dans ces 124 000, il en a retiré 313. Il les aime mieux, c'est des messagers. Et dans ces 313, Allah il en a retiré 5. C'est Oulul Azm, Minar Rusul. C'est les 5 prophètes qui avaient la tâche la plus difficile. La tâche la plus difficile. Et ils ont été éprouvés plus que tous les autres. C'est Noé, Ibrahim, Moïse, Jésus et Mohammed alayhi salam. Et dans ces 5-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a favorisé Muhammad alayhi salat wa salam. Deux questions que j'ai à poser. Pourquoi Allah il a favorisé Muhammad? Deuxième question. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a favorisé les prophètes, moi j'ai entendu un hadith que je pense que vous l'avez entendu, à moins que vous le camouflez, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ne me favorisez pas, ne dites pas je suis mieux que Younes, Jonas. Vous êtes tombé dessus. Rasul dit ne dites pas je suis mieux que Jonas. Allah il dit j'ai favorisé. Et le prophète d'autre côté dit ne me favorisez pas, ne favorisez aucun prophète sur un autre. Hadith il est rapporté par le musulman Ahmed. La tufadhilu bayna al-anbiya. ne favorisez pas entre les prophètes. Rasoul a dit, ne me favorisez pas mieux que Younes. Et Allah, de l'autre côté, dit, til kar rusul. Fadlanna ba'dahum ala ba'd. Deux questions. Pourquoi Allah il a choisi Mohammed parmi tout le monde? Et la deuxième question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a, pourquoi le hadith, oui, et de l'autre côté, non? On va répondre aux questions. Première question, pourquoi Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala a choisi Mohammed? Parce que le hadith il est rapporté par le musulman Ahmed. Rasoul dit, inna Allah nadhara fi quloub al-ibad, Allah il a vu le cœur de tous les êtres humains, il a trouvé le cœur du prophète Mohammed, c'est le plus pur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Le hadith, vous le connaissez. Et là, comment ça se fait qu'Allah ta'ala dit, j'ai favorisé? Et là-bas, le prophète dit, ne me favorisez pas. Les ulama, ils ont répondu deux réponses dans ça. Trois même. Les ulama, ils ont dit, le prophète, il a dit ça par modestie. Deuxième réponse, les ulama, ils disent que c'est pas à nous de favoriser. C'est pour ça que le prophète l'a dit, ne favorisez pas, c'est pas à toi de favoriser. On favorise ce qu'Allah a favorisé. Et ce que le prophète a favorisé. Ce que Allah n'a pas favorisé. Et le prophète n'a pas favorisé, on ne favorise pas. On s'arrête. C'est Allah Ta'ala, il ne nous a pas dit entre Jésus et Moïse qui c'est le meilleur. Je ne me porte pas à moi dire Jésus est mieux que Moïse. Non. Je n'ai pas le droit. Tant qu'Allah il n'a pas dit, Allah il a dit par exemple que les saints qui sont mieux que les autres, nous on dit les saints qui sont mieux que les autres. Mais ce qu'Allah n'a pas dit, le prophète n'a pas dit, on ne le dit pas. Ça c'est ce qu'ils ont dit la deuxième partie du ulama. Et la troisième partie du ulama, où il y a la majorité des savants, ils ont dit, on ne les favorise pas dans le risala, dans le message. Le prophète il a dit, ne me favorisez pas mieux que Jonas, parce que le message dont il a transmis Jonas et le message que je transmets moi, ils sont pareils. C'est le même message. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala l'a appelé dans le Coran. Tout à l'heure, on a dit les livres. Allah, il les a appelés le. En vérité, Allah Ta'ala dirait le Kutub. Mais Allah Ta'ala l'a dit Kitab. Et Allah Ta'ala sur les religions. Qu'est-ce qu'il a dit sur les religions? Yuriduna an yutfi'u nurullah wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala. En vérité, c'était l'Adien. Allah Ta'ala dit, on a envoyé Mohammed avec la religion véridique pour la mettre supérieure à la religion. Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas dit des religions? Pour te faire montrer que la religion, elle est qu'une seule. Et le livre, c'en est une seule. C'est de leur part qu'ils ont falsifié. Une. فَلِهَذَا الْعُلَمَاءِ disent, لَا تُفَضِّلُوا. Les ulama, ils ont répondu, ne favorisez pas Mohammed et Jonas dans le risala. Maintenant, on peut favoriser, par exemple, Mohammed. Il a été testé, il a subi plus que Jonas. La maison dit ça, d'accord. On peut favoriser. Mais dans le message, tu ne favorises pas. Tu ne dis pas, par exemple, le message de Rasoul Semin est mieux que celui de Jonas. Ou celui de Moïse est mieux que Jésus. Ça, on n'a pas le droit. Enfin, tu as trois choses et on peut les rassembler comme ils ont dit le ulama. Par modestie, parce que Rasoul a dit, Ana Sayyidu Waladu Adam. Je suis le maître de tous les enfants de tous les enfants d'Adam. Il a dit ça au prophète Sassim par modestie. Deuxièmement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On n'a pas le droit de favoriser ce que Allah n'a pas favorisé. Et troisièmement, c'est ce que je viens vous dire. Dans le message, on ne favorise pas. Dans les, par exemple, ce qu'ils ont subi, les catastrophes, les tentations, les épreuves, on peut favoriser. Donc, tafdhil al-anbiya, c'est ça. Là, on va sortir dans un sujet délicat. Mais là, je ne vous réponds pas. J'attends de vous que c'est vous me répondez. Ismatul anbiya. La protection des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahib al hut. Allah ta'ala il dit par exemple je me suis trompé de verset. Allah ta'ala dit wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Verset sourate At-Tur, la montagne du Tur, verset 48. Allah ta'ala dit au prophète fasbir, patiente. Le jugement d'Allah qui est entre nos yeux. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala dit à Moïse et Haroun, ne vous inquiétez pas, vous êtes sous ma protection. Allah Ta'ala dit dans le Coran, on a fait que ces prophètes-là, c'est des imams, pluriel de imams, a'imma. Yahdouna bi amrina, ils guident les gens dans le chemin. Lamma sabaru, wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat al-Anbiya, verset 73. Celle-là? Tu es sûr? Moi j'ai marqué NBA. Salat sejda. Salat la prosternation. Et Allah Ta'ala dit فَبِهُدَاهُ مُخْتَدِي. Allah Ta'ala l'ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit suis les prophètes qui sont venus avant toi. فَبِهُدَاهُمْ. Leur chemin, suis-les. Donc mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait tous, dormez, pensez bien, allez ailleurs. Maintenant je vais voir qui c'est qui est les pauvres, qui c'est qui est avec moi, qui c'est qui est non. Allah Ta'ala il a protégé les prophètes, n'est-ce pas? La question se pose, est-ce que les prophètes commettent des péchés ou non? La majorité des savants disent non. C'est un exemple. S'il commet des péchés, c'est plus un exemple. S'il commet des péchés, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est plus un exemple. Et s'il ne commet pas de péché, il y a des versets des hadiths qui nous montrent qu'ils ont commis des péchés. Adam, il a mangé. Fa'asa Adam Rabbahu. Nuh. La preuve, il est venu le hadith, il est rapporté par Bukhari. Yom al-Qiyam, le jour de l'intercession. On va aller voir Noé, on va voir Adam. Il dit Inni aznabtu dhanban. J'ai commis un péché. Allez voir Noé. On va voir Noé. Tu es le premier messager. Aide-nous. Il dit moi-même, je ne sais pas. J'ai commis un péché. Allez voir Moïse. Allez voir Ibrahim. Et nous tous, ils ont commis des péchés. Et de l'autre côté, s'ils commettent des péchés, ce n'est plus des exemples alors. Puisqu'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dit dans le Coran Wallahu ya'simuka minan nas. Allah, il te protège des gens. Alors expliquez-moi, est-ce que les prophètes commettent des péchés ou non? Regardez-moi, je vous regarde. Ça va? Ça va, vas-y. Alors, il n'a pas eu que supporte un guerrier, un Khaled ibn Walid, dis-moi, frère. Je la jette, elle s'accole, s'accole, s'accole. Pas moi, je vais essayer. Alors,
puisqu'Adam, il a dit, quand on lui dit, va voir Allah pour qu'il nous demande pardon, il remet le truc sur Noah. Donc, Noah qui envoie sur notre prophète pour aller voir Allah. Donc, moi, alors, Adam, je pense que, ça reste des êtres humains. Il n'y a que Allah qui est parfait, quoi. Donc, nul être humain ne peut être parfait. Donc, ils sont capables de pouvoir commettre des péchés. Maintenant, je peux me tromper. Alors, voilà.
Si j'accepte ta théorie, qu'est-ce qu'on fait des versets qu'Allah Ta'ala a dit je préserve les êtres humains et surtout les prophètes? Allah Ta'ala a dit au prophète je te préserve. Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah Ta'ala a dit à Moïse vas-y, tu es sous ma garde et mon contrôle. Fa'innaka bi'ayunina. Allah Ta'ala, quand il a envoyé Moïse à Aaron, il a dit la takhafa wa la tahzana. Innani ma'akuma. Je suis avec vous. Quand le Rasoul s'est mis dans la grotte avec Abu Bakr, il a dit je suis, c'est moi et toi, on est deux, le troisième c'est Allah. Donc on en tire, il y a beaucoup de versets des hadiths qu'Allah il protège. Fadbal.
Il protège les grands péchés. Les petits péchés.
C'est quoi le grand péché? C'est quoi le péché? Quand tu lui as dit Allah Ta'ala ne mange pas de cet arbre, il a mangé. C'est un grand péché ou un petit? Mentir, c'est un grand péché ou un petit? C'est un grand. Ibrahim alayhi salam, il a menti trois fois. Qui c'est qui a dit des exemples? C'est des exemples? Vous voyez celui qui a dit exemple? Fadal Samir.
Pour l'exemple, c'est l'histoire d'Adam.
Hein?
L'histoire d'Adam.
Radiallahu ta'ala anhu. C'est permis?
Hein?
C'est permis de dire radiallahu anhu?
Non.
Non? Allah, il n'est pas satisfait de lui?
Oui.
Ah.
Je l'ai créé.
Hein?
Ça veut dire que Dieu l'a créé.
Que Dieu l'a créé. Ou comment il est satisfait de lui, non? C'est ça, non? C'est pareil, non? J'ai le droit de dire? Allah, il a dit. Vas-y, pardon.
Adam, c'est l'arbre qui a mangé le fruit.
L'arbre, dis plutôt l'arbre.
Voilà, l'arbre. C'est parce qu'il y a une excuse, lui. Parce que Shaitan, il a juré par le nom d'Allah. Il a juré. Et par rapport à quand il a juré par le nom d'Allah, quand il a goûté, il a touché l'arbre, il a dit, je ne savais pas qu'on pouvait jurer par ton nom et mentir. Il avait une excuse. Les prophètes, quand ils commettent des péchés, c'est par la volonté d'Allah. C'est par rapport à. Il y a des exemples que les prophètes, quand ils ont commis des erreurs, par des oublis. On prend l'exemple de Youssef, quand il a dit. Il a oublié de dire.
Ah, mais excuse-moi, c'est quand même.
Non, mais c'est par rapport à des oublis, c'est pas des péchés.
Oui, mais c'est quand même des péchés. Que tu le fasses sans faire exprès, c'est quand même un péché.
Quand. Quand le prophète a oublié de dire Inch'Allah, c'est pas un péché.
C'est un péché, musulman, on va dire, c'est un péché involontaire. Mais c'est un péché.
Oui, mais c'est Allah qui l'a voulu. Qui...
Ah oui, je sais.
Voilà, ouais,
là, tu rentres dans un domaine un peu délicat.
Je sais. Moi, j'ai compris, quoi. C'est Allah qui a fait en sorte qu'il oublie pour pas. Parce que derrière ça, il y avait une sagesse, quoi.
Mais si Allah, il a voulu, et c'est un oubli, si c'est un oubli, comment ça se fait qu'Allah, il le laisse oublier alors que de l'autre côté, Allah t'a dit, je te préserve. Si je te préserve, tu ne dois pas oublier.
Des exemples pour nous.
Ah, c'était ton exemple.
En fait, ils sont toujours protégés, mais Allah Ta'ala, il leur fait faire exprès pour que nous, on voie. Et ensuite, comme quoi nous aussi, on peut tomber dans ce péché, et qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour qu'ensuite, Allah Ta'ala, il agrée leur pardon.
Masha'Allah. Tu as une 16 sur 20. Masha'Allah. 16 sur 20. Zid.
C'est quand Allah dit à Adam qu'il a commis un péché, toute sa descendance, il commettra un péché et il demandera le pardon. Je leur pardonnerai.
Moi, je pense que tu as répété un peu ce qu'il a dit Nordine. Non? Mais là, le 16, il a pris que lui. Hein. À moins qu'il veut partager avec toi, c'est autre chose. Lid, à ce côté-là, ça dort, là, ce côté-là. Yallah, Lid.
Le hadith ou le français, ça nous dit qu'on nous a dit Adam Khattab.
Oui. Donc toi, tu penses du côté qui font des péchés? Réponds-moi alors sur. Qu'est-ce qu'on fait des versets? Eh oui, si tu me dis ils font des péchés, alors réponds-moi, qu'est-ce qu'on doit répondre aux ulama que c'est la majorité qu'ils ont dit ne commettent pas de péchés, sont protégés par Allah. Parmi les versets des hadiths. Non, attends, Samir, non, laisse-les, Samir.
Ah.
Vous voulez qu'on la passe? On passe ce point.
Non, il a dit tout le monde commet des péchés à Allah.
Et qu'est-ce qu'on répond aux ulama qui disent ils ne commettent pas?
Parce que là, il a dit juré.
Qu'est-ce qu'on répond aux savants qui disent ils ne commettent pas?
Parce que c'est Allah, il dit je t'ai pardonné tes péchés passés et futurs.
Oui.
Au prophète.
Oui.
C'est la preuve qu'il va en faire.
Et c'est la preuve, c'est lui-même qui a dit je te pardonne les péchés le premier et le dernier. C'est lui-même qui a dit Wallahu ya'asimuka min al-nas. Allah, il te protège déjà.
Il protège. Il protège les prophètes, mais pas contre les péchés. Ils peuvent faire des péchés.
D'ailleurs, s'il fait des péchés.
Il demande pardon, les prophètes demain.
S'il fait des péchés, c'est plus un exemple pour nous.
Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils font très peu de péchés. Des gens, rarement. Merci, des gens ou des chakras.
Je vous dis ce qu'ils ont dit le ulama. Ça, c'est Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah, il le dit. Fait le fatawa. L'imam al-Qurtubi. Et l'imam Ibn al-Arabi, pas Ibn al-Arabi, hein? Ibn al-Arabi, le savant qui a fait Ahkam al-Quran, il dit les prophètes alayhi salatu wa salam, ils commettent des péchés. La plupart du temps, c'est des petits. Mais ça n'empêche pas qu'ils commettent des grands. Ce qu'il a fait Adam, ce qu'il a fait Noé en s'opposant à Allah, ce qu'il a fait Moïse, ce qu'il a fait Ibrahim en mensonge trois fois, ce qu'il a fait Issa, mais c'est pas cité, ce qu'ils ont fait Jonas, etc. Ils commettent des péchés. Walakin, comme ils ont dit le ulama, ça ne veut pas dire qu'ils commettent des péchés, que leur degré descende. C'est ce qu'ils ne comprennent pas les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de frères, par exemple, juste pour ressortir un peu du sujet, il y a beaucoup de frères, quand tu viens, tu lui dis tel savant, il s'est trompé dans ce sujet-là, ça ne veut pas dire qu'on baisse du degré de ce savant-là. Si tu viens, tu lui dis, tu sais que Cheikh Albani, l'ulama, ils disent qu'il s'est trompé dans ce domaine-là. Le mec, c'est comme si tu as déclenché 1000 volts sur lui. Il se révolte. Et comment, subhanallah, Albani lui-même, il dit, je me trompe. Où est le problème qu'on dit Albani s'est trompé? Ça baisse du degré de l'Albani? Ça baisse du degré de Ben Baz? Ça baisse du degré d'Imam Malik ou bien Ahmed ou bien Ibn Taymiyyah? Là. Ibn Taymiyyah, il a dit, l'enfer et le paradis, c'est pour un temps, après ça y est. C'est pas pour l'éternité. Comment un imam comme Imam Ibn Taymiyyah, il peut glisser et faire une erreur comme ça? Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait cette erreur, que ça baisse du degré d'Ibn Taymiyyah. Ça ne veut pas dire ça. C'est qu'Allah Ta'ala, il en a fait que les gens font des erreurs, justement, c'est pour ça. C'est pour ça que l'imam, Cheikh Ibn Taymiyyah, dit les prophètes commettent des péchés. Pourquoi? Premièrement, commettent des péchés pour te faire montrer que c'est des êtres humains comme nous, qui peuvent leur arriver de glisser comme nous. Et deuxièmement, en commettant des péchés, ça ne fait pas tomber de leur degré. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, si les prophètes ne commettraient pas de péché, ils seraient privés du repenti. Et la chose la plus aimée عند Allah, c'est le repenti. Alors, ce qui dit, Allahu ashaddu farahan. Allah Ta'ala, la chose qui le rend le plus content, c'est quand son serviteur il se repentit, mieux que celui qui était avec sa chamelle, et sur la chamelle il y avait les provisions, etc., qu'il a perdu, que vous connaissez le hadith, etc. Si on dit au prophète, il ne commet pas de péché. Il ne commet pas de péché. Donc il est privé du repentir. Ça ne veut pas dire qu'il commet des péchés. Et en plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit à l'heure Nuruddin, Allah Ta'ala il fait qu'il commette des péchés, qu'il demande pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tous les péchés qu'ils ont fait les prophètes, Allah les a dévoilés. Tous les péchés que les prophètes ont fait, Allah les a dévoilés. Si ça serait des péchés cachés, ils auraient fait volontairement, là on aurait dit c'est des graves. Mais ils ont fait des péchés par erreur, par oubli, par mauvais jugement. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, il le blâme. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il le rectifie. Voilà que tous les prophètes ne commettent pas de péché vis-à-vis de la révélation. Attention. Ils commettent des péchés en tant que nature. La nature de l'être humain. Il s'énerve, il se met en colère. Des fois, il arrive à se mettre en colère contre quelqu'un. Il lui arrive de rejeter. Il arrive de se détourner. Oui. Mais jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va glisser dans la révélation. Il va mentir sur Allah. Jamais. Jamais. Là, on va dire qu'Allah, il les a préservés. C'est-à-dire, il a préservé la révélation. Jamais tu trouveras un prophète. Allah Ta'ala a dit, va faire 5 prières. Lui, il est venu, il nous a dit, ah, je me suis trompé, c'est 6. Jamais. Allah Ta'ala, là, il les protège. Mais ce que sort, rarement, hein, mais ce qui sort de eux, en tant qu'être humain, c'est pas grave. Rasoul Sallam, avant de mourir, il a dit, chaque personne que j'ai insultée, ou j'ai traitée, ou je lui ai fait du mal, Allahumma ja'alha kafaratan lahu. Et Allah fixe un pardon pour lui. Rasoul Sallam, chaque personne que j'ai traitée, ou insulté, ou. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est venu l'envie de rejeter. Quand ils sont venus kuffar Quraysh, ils ont dit, oh, tu veux que nous, ce Bilal là, et ce Suhaib là, et ce Salman, ces pauvres habits déchirés là, c'est Allah t'a les a choisis mieux que nous, et là Mohammed, tu les jettes autour de toi, on s'assoit nous, et peut-être on va écouter tes paroles, peut-être on va réfléchir à l'islam. Alors cela a voulu. Allah Ta'ala de suite il a fait descendre le verset. Voilà tatrudil ladina yad'una rabbahum. Attention, tu fais l'erreur de rejeter ceux qui sont autour de toi. Allah il a blâmé même d'Abdallah ibn Maktoum. L'aveugle qui est venu pour demander des versets, Rasoul, quand il a vu, il a fait son visage moussard. C'est-à-dire, Rasoul n'a pas rejeté comme ça parce qu'il était préoccupé à parler à des kofars pour les faire entrer dans la religion. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé. Il dit ça, pour l'instant il n'est pas rentré dans la religion lui. Et lui c'est un musulman. Et quoi qu'il en soit, le musulman il est toujours le top. Allah Ta'ala l'a blâmé. Mais c'est des erreurs de nature, c'est des mauvais jugements qu'il a fait le prophète, par oubli, par erreur, parce qu'on l'a obligé à faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne commettent pas des péchés. Et même s'ils en commettent rarement, et ça ne baisse pas du degré des prophètes. C'est des êtres humains comme nous. Seulement dans la prophétie, là, Allah Ta'ala dit, « Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafidun. » Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah subhanahu wa ta'ala, là où il préserve les prophètes, il ne rajoute pas dans le message, il ne diminue pas. Donc si on vient vous poser une question, est-ce que les prophètes commettent des péchés? Oui, rarement, mais ils commettent, ils se repentent. Adam, dès qu'il a commis le péché, de suite il a collé avec le pardon. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. La Jonas, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Moïse, pareil. Ibrahim, alayhissalam, Rabbi, ghfirli khati'ati yawm. Tout le monde commet des petits péchés. Mais de suite, ils reviennent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils se repentent pour gagner la récompense du reparti. Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est fait appeler parmi les 99 noms, les 100 noms qui sont descendus sur terre. Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est fait appeler le repenti. Et les prophètes, donc, ils ne profitent pas de ce nom, de cet attribut-là. Ils profitent. Donc, ils commettent des péchés, les prophètes, alayhi wa sallam. Mais rares et peu. Et les péchés qu'ils commettent, les prophètes, c'est par oubli, par erreur ou par mauvais jugement, etc. Maintenant, c'est le mu'jizat. C'est quoi le mu'jizat? C'est les miracles. Vous savez que chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné des miracles. Il s'en sert pour montrer, pour appuyer la preuve qu'il est en train de vous dire vrai. Et ces mu'jizat-là, ils sont donnés aux prophètes. Mais est-ce qu'ils sont donnés rien qu'aux prophètes? Si un être humain autre, Samir, c'est très important. Si un être humain, il fait un miracle, on ne dit plus c'est mu'ajiza, on dit karama. Comment tu veux dire karama? Parce qu'en arabe, il y a mu'ajiza. Mu'ajiza, c'est du mot ajaz. On dit, la vieille, on lui dit ajouz. Parce qu'elle est devenue incapable. Mu'ajiza, ça sort du mot incapable. Je vais donner un miracle, c'est incapable à quelqu'un de reproduire ce miracle. C'est pour ça qu'on l'appelle mu'ajiza. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui font, ils ont des miracles. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des miracles. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va vous sembler un peu bizarre. Mais on ne dit pas dans ce cas-là mu'ajiza. On dit karama. Et karama, ça sort du mot ikram. Allah, il a fait un ikram, une générosité, une faveur à cet homme. Il lui a donné ce miracle-là.
Un don.
Un don qui marche sur l'eau. Ou bien... Bon, restons là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qui restons sur les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné des mu'ajiza. Et mu'ajiza, c'est des miracles. Ces miracles-là, ils sont partagés en trois parties. Ou bien mu'ajiza kauniya. Mu'ajiza, que ça a un rapport avec l'existence de ce bas monde. Par exemple, Moïse, il a ouvert la mer. Par exemple, il a frappé avec sa canne sur le rocher, elle a jailli 12 sources. Ou bien il a levé la montagne sur eux. Ou bien il a fait descendre les cailles. Ou bien au temps de Jésus, elle est descendue la table. Ou bien au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé la lune en deux avec son doigt. Ou bien le prophète avec ses deux doigts, il a coulé deux sources. Ou bien, tout ça, c'est des miracles qu'ils ont à voir avec l'existence de ce bas monde. On dit ça, mu'ajiza kauniya. Mu'ajiza, miracle, qu'à voir avec ce bas monde. Le deuxième miracle, c'est raibi. C'est quand un prophète, Allah lui donne comme miracle, il met au courant des gens des trucs qui vont se produire. Des trucs comme Isa alayhi salam, parmi les miracles qu'Allah ta'ala lui a donné, parmi les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il a dit par exemple, yunabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun. Il va vous mettre. Isa, les miracles, c'est-à-dire toi, tu as mangé tout à l'heure, tu as mangé ça, et ce que tu as mis pour demain, c'est ça. Il met en garde. Comme le prophète, il nous a mis en garde. Voilà, il va venir Dajjal, voilà, il va venir Mahdi, voilà, il va venir si, voilà, Rasul nous a mis en garde. C'est-à-dire, il nous, des mu'ajiza, des miracles, Rasul nous a mis. Et la troisième mu'ajiza, c'est ilmiya, c'est le Coran. Des fois, Allah Ta'ala, il donne des miracles, et parmi les miracles, Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Coran. La chose la plus miraculeuse qui reste pour l'éternité, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a fait que c'est le Coran. La Torah, elle est descendue d'un coup, paf. Vous vouliez voir les miracles d'Allah? Regardez les miracles d'Allah, les oiseaux, la mer. Mais d'un autre côté, Allah, comme vous demandez des choses à faciliter, Allah, il vous rend la tâche difficile. Eux, ils vous laissent la couler douce. Ils ne croyaient que ce qu'ils voyaient, les gens du livre. Voilà qu'Allah, de l'autre côté, leur a donné des messages difficiles. L'un d'eux, quand il était touché par l'urine, il fallait qu'il la coupe avec la peau. Il fallait qu'il coupe la peau qui a été touchée par l'urine. ولهذا نحن أمة محمد on dit ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته الذين من قبلنا. يا الله ne nous rend pas la tâche difficile de nous mettre, de nous donner des choses difficiles comme tu as donné pour ceux qui sont venus avant nous. Allah Ta'ala a dit au peuple de Jésus, vous voulez la table, je la donne. فمن يكفر بعد منكم. Celui qu'après avoir vu la table, où il goûte, où il mange, il renie, je le détruis. Pareil pour Moïse. Allah Ta'ala, chaque communauté qui a demandé un miracle, si après que cet miracle y vient, vous ne croyez pas, je vous détruis. Comme il s'est passé avec le peuple de la Chamelle, comme il s'est passé avec le peuple de comment il s'appelle, de Isa alayhi salam, comme il s'est passé avec le peuple de Moïse, et ainsi de suite. N'importe qui ont demandé des miracles, il est venu ce miracle. Après, ils n'ont pas voulu croire, Allah subhanahu wa ta'ala détruit. L'une des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Al-Injil, la Bible, elle est venue d'un coup. Walakin al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan, la clémence pour cette communauté, il l'a fait descendre doucement, doucement. Petit à petit, pour alléger à nous notre difficulté. S'il serait, le Coran serait descendu d'un coup, même pas le prophète n'aurait pu le supporter. Même pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna sanulqi alayka qawlan faqilan lourd. C'est une parole d'Allah, ya akhi. T'imagines, il serait descendu d'un coup? On n'aurait pas pu le pratiquer, nous. Même le prophète, il n'aurait pas pu le supporter. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait descendre, il défie. Allah Ta'ala dit, Alif lam mim, ham mim, kaf, ha ya'in, sad, qaf, Allah Ta'ala, il y a beaucoup de versets de surah dans le Coran, il commence par des lettres. La majorité des savants disent Allahu A'lam. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi un verset, le premier surah, il commence Alif Lam Mim, Alif Lam Mim? Ça veut dire quoi? Kaf, Ha, Ya, ça veut dire quoi? Sad, ça veut dire quoi? Quelques ulama, ils ont fait un approchement. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait citer, Allah Ta'ala, il a cité dans ce Coran, des lettres en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il défie Kuffar Quraysh. Vous êtes très très fort en langue arabe. Et c'est vrai, c'était très très fort. Vous êtes très très fort en langue arabe. Je vous ai amené quelque chose pour vous défier. Dans votre langue arabe, vous utilisez des lettres. Ces lettres-là, vous les connaissez, sont là parmi vous. Regardez, je vous les donne les lettres. Essayez de me construire, de me produire des surahs, des versets comme celles que je vous donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a défiés en disant ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض لبعض ظهيرا. الله تعالى يدفي si tous les êtres humains et tous les djinns ils viennent à se rassembler et s'entraider à vouloir essayer d'amener un Coran comme celui-là, ils ne parviendront pas. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala défie encore moins, ça c'est trop. Il a défié. Allah subhanahu wa ta'ala a défié Quraysh. Fa'atu bi'ashri suwarin mithli. Donnez-moi 10 surat faqat. Vous avez la langue arabe. Vous avez les lettres. Je n'ai pas employé des lettres que vous ne connaissez pas. J'ai employé le alif et le bay, le taï, le tha, le sad, et le qaf, et le kaf. C'est tous des lettres que vous connaissez. Vous les utilisez dans vos poèmes. Vous les utilisez dans votre langue. Donnez-moi 10 surat. Allah subhanahu wa ta'ala il est descendu en disant Fa'atu bi suratin. Une surah. La plus petite, il n'a pas été. J'ai bien été. Ils sont pas pires. Voilà, n'y est pas. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce Coran. Il est miraculeux. Il défie. Regardez les gens de la jurisprudence, ils profitent du Coran. Les gens du hadith, ils profitent du Coran. Les ulama, ils profitent de l'unicité. Les gens de la grammaire, ils profitent du Coran. Les gens de l'histoire, ils profitent du Coran. Tout le monde profite de ce Coran. Parmi les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans le Coran, si je viens te donner une revue, tu la lis une fois, deux fois, trois fois, une semaine, tu en as marre. Coran, plus tu le lis, plus tu te régales. Jamais tu viendras dire j'en ai marre de ce Coran. Non, tu vois l'histoire de Moïse, ma gomme fliste. Jamais. C'est pour ça que le quand il a écouté Al-Kafir, je pense que c'est Al-Walid, Ibn Shayba, il a dit Inna alayhi la halawa. Il est ajib ce Coran, il est sucré, il est ajib. Plus tu le lis, plus tu te regardes. Et Allah Ta'ala le dit pour nous. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. On a facilité le Coran pour ceux qui veulent l'apprendre. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est prêt à se faire un rappel de l'apprendre? Si Allah Ta'ala ne l'aurait pas facilité, aucun de nous aujourd'hui pourrait apprendre le Coran. Tu as entendu quelqu'un aujourd'hui apprendre un livre, n'importe quel livre, et l'apprendre par cœur? Personne. Alors imagine, pourtant c'est un livre d'une créature. Quelqu'un il a écrit un livre, Agatha Christie ou Jules Verne, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et tu as entendu quelqu'un qui l'a pris par cœur? Il l'a lu. Mais après, je n'ai pas entendu. Walakin hadha al-Qur'an, kalamullah subhanahu wa ta'ala, il est dans la poitrine des milliers et des milliers de personnes sur terre. Fahadi mu'ajiza min Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier point qu'on va étudier, c'est quoi la différence entre la prophétie et la royauté? Al-Mulk. Et Nubuwa, la prophétie. Premièrement, sache que la prophétie, on a dit tout à l'heure, Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala, il choisit. Enfin, la prophétie, elle est donnée qu'aux gens qu'Allah choisit. Tu ne l'as pas par succession et tu ne l'as pas par force. Tandis que la royauté, c'est par force ou par succession. Et Nubuwa, la tourath. Atayya min Allah, hibatun min Allah. Tandis que le mulk, là, mulk c'est par succession, ou quelqu'un le vient, le prend par force. La deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la prophétie, c'est khas, spécialement pour les hommes. Tandis que la royauté, on peut trouver des femmes reines. Reine d'Angleterre, là. Reine, comment ça s'appelle? Elle est. Avant, c'est-à-dire la royauté, on trouve des reines. ولكن الprophecy الله سبحانه عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا que des hommes. Pourquoi? Parce que la prophétie, elle demande des épreuves, des difficultés. On va te frapper, on va même te tuer. Et ça, c'est pas donné à la femme. La femme, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créée faible. Et malheureusement, les hommes sont devenus faibles. Là, c'est à qui les hommes? Elle est devenue faible. Et les femmes, elles sont faibles. Hakada? Taïb. Et la troisième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la prophétie, elle est donnée qu'aux musulmans. Tandis que la royauté, il apprend un musulman, il apprend un non-musulman, etc. etc. Sahé? Samir. Taïb. Et la quatrième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la prophétie te cite, t'encourage, t'incite pour l'akhira, à délaisser ce bas monde. Ce bas monde, il n'est pas pour toi. Tandis que la royauté, c'est le contraire. Elle t'incite pour ce bas monde, à profiter de ce bas monde. Manger, boire, habite-toi, etc., etc. C'est pour ça que la différence entre la prophétie et la royauté, on trouve des prophètes qui ont la royauté et la prophétie. Comme Sulaiman alayhi salam, comme Daoud alayhi salam. Voilà qui est la différence qu'il y a quand la royauté elle est accompagnée de la prophétie, tu as eu le jackpot, comment dire. Mais si tu as à choisir entre les deux, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne la prophétie à qui il veut, parce qu'Allah il les a choisis. Tandis que la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grave problème si elle n'est pas, accompagnée de la croyance et des bons actes. C'est pour ça qu'il est venu dans le hadith, Allah ta'ala il donne ce bas monde à celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas. Voilà qui nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne qu'à celui qu'il aime. Comme il est venu dans le hadith al-sahih, sahih al-jami', « La yajtami'u fi qalbi mu'min, hubbu al-dunya wa hubbu al-din. » Furiwaya, hubbu Allah. « La yajtami'u fi qalbi mu'min, hubbu Allah wa hubbu al-dunya. » Là. Jamais. C'est ou l'un ou l'autre. C'est à toi de changer. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on attaque Adam. Ce que je tenais à vous dire, les chers frères, vous êtes deux groupes là. Vous êtes le groupe de la Sabine et le groupe de Kabbalah. Moi, j'ai lundi, j'ai les frères, lundi soir, j'ai les frères de Erbel. On a tafsir le Coran, la traduction, l'interprétation du Coran. Mardi, j'ai rien pour l'instant, mais c'est pour réserver pour les frères du centre-ville ou de Vitrolles. Mercredi, je vous ai vous. Jeudi, j'ai les frères de Saint-Barnabé. Ils ont choisi une unicité, c'est de la mort, ça descend. Vendredi, j'ai les frères du Bosquet. J'ai le fiqh avec eux, la jurisprudence. Je sais que vous vous demandez pourquoi on a fait ça. Allah ghalib, les frères. Tout ça, c'est un problème, manque de local. On n'a pas de grande mosquée, pas de local. Si on aurait une grande mosquée, vous profiterez de 4 cours, 5 cours par semaine. Mais on n'a pas. Donc, on est obligé de faire des petits groupes. Et vous mélangez, ça cause toujours des problèmes. Il y a trop de monde, trop de voitures, on discute, c'est pour ça qu'on parle. Donc, les chers frères, c'est pour ça que je tenais à vous dire, j'ai formé des petits groupes comme ça. Bon. Maintenant, les frères, il me faut chaque groupe un ou deux responsables. Les frères de la Sabine, vous désignez un ou deux responsables. Et les frères de Prévalent, vous me désignez un ou deux responsables. S'il y a quelque chose, moi je contacte direct le frère ou lui me contacte, etc. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je tiens à vous dire, les frères, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Vous, les responsables, c'est vous qui décidez. Vous venez à 20, vous venez à 40, vous venez à 100, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais moi, je te conseille, ferme la porte. Parce que moi, ils vont venir déjà, ils vont me dire, est-ce qu'on passe, si c'était dans le cours de mercredi. Moi, je dis, va voir tel, le responsable de Frévalon, et va voir tel, le responsable de la Sabine. Mais attention, tu te mets dans l'esprit que le frère, il va venir te dire, ouais, c'est Nordine qui m'a envoyé, ça veut dire, accepte-le. Attention. Si je te l'envoie, c'est parce que tu es responsable. Je ne t'ai pas dit, accepte-le. Ça, c'est toi de voir. Tu veux l'accepter, c'est toi. Tu veux pas l'accepter, c'est toi. Moi, j'ai rien à voir. Moi, je te l'envoie parce que tu es responsable, mais le reste, tu l'acceptes. Tu l'acceptes pas, c'est toi. Mais je vous dis quand même, et je le répète, les frères, moi, ça ne me dérange pas, la mosquée est remplie, ça me dérange. Fermez la porte. C'est un conseil que je vous donne, fermez la porte. Parce que vous allez vous retrouver plusieurs, il va venir un jour, vous n'arriverez plus à gérer, mais on va retomber dans les mêmes problèmes qu'avant. On sera forcé d'arrêter. Troisièmement, les chers frères, ce que je tenais à vous dire, rien n'empêche, pour l'instant, on vous a. Peut-être si j'ai un temps libre plus tard, Inch'Allah, on voit, etc., selon mon programme, on essaiera de vous donner un deuxième jour. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est, faites-vous une révision entre vous. Réunissez-vous une fois par semaine entre vous et faites une révision. Vous apprenez l'interprétation entre vous. Vous apprenez à parler devant les frères. Hada, il parle, il a fait une erreur, le frère, il le rectifie. Vous apprenez à affronter les têtes, les visages. Ce que tu le répètes là, après tu vas le répéter à ta femme et ses enfants. Entraînez-vous entre vous. Rien n'empêche. Fais-toi une révision, parce que si tu ne fais pas une révision, on sait pas. Imam Zohri dit, l'ilm, afatuhu nisyan. Et l'ilm, il demande la révision. Tu ne le révises pas, il part. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de ulama, jarh al-ta'dil, avant c'était des bombes, comme on dit nous, dans le hadith. Mais de fur et à mesure qu'il a vieilli, il a commencé à oublier, le ulama il dit, hada, maintenant on laisse tomber son hadith. Avant, oui. Maintenant on laisse. Il y en a parmi eux, ils étaient en Irak, fort. Quand ils sont arrivés en Syrie, ils ont un peu oublié. Le ulama dit, les hadiths qui ont été cités en Irak, selon les élèves qui habitent en Irak, on le prend. Comme Ismaïl ibn Ayyash. Des élèves qu'il a cités en Syrie, par rapport aux élèves qui sont en Syrie, on laisse tomber son hadith. Il y a beaucoup qui sont, on glisse dans le manque de révision. Le Rasul nous dit, même dans le Coran, le Rasul dit, ta'ahadu hada al-Qur'an. Le Rasul dit, révisez ce Coran. Innahu la ashaddu tafallutan min al-ibil fi uquliha. Le Rasul dit, révisez ce Coran. Parce qu'il est, il s'enfuit pas plus que la chamelle si, ou le chameau si tu ne l'attaches pas. Le Rasul a donné l'exemple du chameau, pas du mouton, pas du cheval. Pourquoi il a dit le chameau? Ça, il faut contempler toujours, pourquoi? Alors, cela n'a pas dit chameau au hasard. Hein? Faites-vous les révisions, ne serait-ce qu'une fois. Voilà, moi, je vais tenir à vous passer ce message-là. Maintenant, c'est à vous. C'est pour ça que vous, parce qu'il y a des frères qui viennent, mais moi, j'ai envie d'assister mercredi. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ni oui, ni non. Moi, c'est pas moi. Moi, je viens, comme vous me voyez, je viens, je donne mon cours, je pars. Maintenant, vous rajoutez, vous diminuez, vous, c'est vous. Mais mettez quand même des responsables. Un ou deux pour chaque groupe. C'est ce que je vous demande, Inch'Allah. Et en même temps, ça, cherchez chacun de votre côté un local. Comme ça, on peut faire des, profiter. Si on aurait un grand local, vous étudierez samedi le tafsir, dimanche, vous étudierez lundi tafsir, mardi, les frères ont demandé l'université, mercredi, vous étudierez l'histoire des prophètes, jeudi, vous étudierez avec les autres frères l'université de la deuxième partie qui part de la mort et ainsi de suite, vendredi, vous étudiez les jurisprudences, et voilà, vous profitez de 4-5 cours par semaine. Mais ça, c'est quand on aura un local. Tant qu'on n'a pas de local, tant qu'on n'a pas de mosquée, on est obligé de faire comme ça. Petit groupe par petit groupe, ça ne mène pas de problème, ça ne mène pas des ennuis, et voilà. Qui est-ce qui a des questions à poser, sur le cours ou sur quelque chose d'autre? Les frères, attends, juste une semaine. Le cours, il est bon comme ça en français ou vous voulez que je parle un peu en arabe?
Mélange.
Un mélange?
Ouais.
Qu'est-ce qui dit mélange?
C'est pareil.
Je crois que la majorité dit français. On aime bien la France. Inch'Allah, on verra la semaine prochaine. Inchallah. Oui, Ismaël.
Le hadith sur Yom al-Qiyamah, chaque prophète, il va se renvoyer dans une riwaya, je ne sais pas si elle est authentique, je demande l'authenticité. Est-ce que Aïssa, il a. J'ai lu. Alors, le fait, comme quoi Aïssa, il dira on m'a adoré, moi et ma mère, en dehors d'Allah. Est-ce que cette riwaya est authentique?
Les riwayettes que je connais, moi, Allahu A'lam, c'est que Aïssa, alayhi salam, il dit Aznabtu dhanban, j'ai commis un péché, mais le hadith, il ne le cite pas. Nous, le prophète. Il ne le cite pas. Mais comme vous savez tous, les chers frères, c'est que Isa alayhi salam, Allah va le juger comme il va juger tous les autres prophètes. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger les prophètes, n'est-ce pas? Il va juger les animaux, il va juger les anges, et il va juger les prophètes. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger les prophètes pour montrer la preuve aux gens. Allah ta'ala, il va dire à tout le monde, devant tout le monde, Aïssa, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah va le juger. Et Allah, il sait très bien que Jésus n'a pas dit ça. Mais pour faire montrer devant tous les gens que vous avez menti sur lui. Comme Allah Ta'ala, il va juger les anges. Allah Ta'ala, il sait très bien que les anges ne le désobéissent pas. Voilà qui s'est marqué dans le Coran. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ. Allah va juger les anges. Mais ce n'est pas un jugement, c'est-à-dire hasanat, c'est punition, non. Allah va le juger devant tout le monde pour dire que les anges ne vous ont pas dit de m'adorer. Parce que le kuffar Quraysh, ils adoraient les anges. Enfin, les anges vont prendre leur défense. Ils vont dire, oh, nous, on n'a rien dit. Jésus, il va prendre sa défense. Les prophètes vont prendre leur défense. Hein? Les animaux, pareil, Allah va le juger. Celle qui avait des cornes, Allah Ta'ala, yom al-qiyam, il va donner à celle qui s'est fait frapper, elle va se mettre à frapper l'autre. Après, Allah Ta'ala, il en finit avec les animaux. Les seuls qui vont être jugés et punis ou paradis, ou récompensés ou paradis, ou punis l'enfer, c'est les êtres humains et les djinns et... Hein?
Iblis.
Iblis et Shaitan. Et des pierres. Et oui, Khoya. Dis-le, ça colle pas. La Yahdina.
C'est tout.
C'est quoi que tu peux dire, c'est tout? Parce que c'est les deux seuls responsables, c'est tout, oui, dis-le. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas. C'est vrai qu'il est venu dans le hadith qu'Allah Ta'ala va prendre le soleil, il va prendre la lune, يُكَوِّرْهُمَا, il va les entourer, il va les jeter dans l'enfer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le soleil et la lune? La lune elle se prosterne et le soleil se prosterne. Pourquoi Allah va les jeter dans le feu? Parce que le ulama, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, fait charh al-aqid al-wasitiyya, parce que l'origine du feu et de la lune, c'est le feu. Allah il va les rejeter à leur origine. Ça ne veut pas dire qu'il les a punis. Tout simplement.
Le troisième point, c'est que Allah met en garde. En fait, nous envoyons des prophètes pour qu'ils mettent en garde. Et tu as cité un verset. Il n'y a pas de qu'un affaire en sens.
Ibratun li ulil albab, surat Yusuf, verset 111.
Je vais poser une question, je peux poser, mais ça n'a rien à voir avec tout. Parce qu'on a un petit problème à Marseille avec, je parle des nouveaux qui viennent. Il y en a où on est ancien, donc on a tous subi. Mais les nouveaux qui viennent, ils arrivent, ils sont un peu perdus, on dit. Est-ce qu'il ne serait pas préférable à chaque cours à la fin de donner un peu de cours sur le manhaj pour voir que ses frères puissent s'accrabonner? Parce qu'ils arrivent là, ils se font un peu croire avec toi, après ils arrivent, ils rencontrent d'autres frères, tu sais. Et ils leur mettent des choubarades et les frères, là. Moi je connais des frères qui se désistent, ils ne viennent plus, ou ils ne se veulent plus, ou ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se crampent pour qu'ils connaissent bien leur deal, comme ça ils peuvent supporter de eux-mêmes les
étrangers?
Oui, c'est facile à dire quand tu es ancien, quand tu es nouveau.
Non, moi le problème, ça ne me dérange pas, mais j'ai peur que le cours, parce que vous êtes beaucoup, les frères ils écrivent, etc. C'est par rapport au temps, peut-être les frères le lendemain ils travaillent, etc. Pour moi ça ne me dérange pas. Les frères ils travaillent le lendemain et tout. Le cours déjà il fait 1h30, 2h. Donc moi ça ne me dérange pas. Mais
non, j'ai 5 minutes à la fin de séance, petit à petit, le gars il part avec quelque chose. Pas qu'ils soient déstabilisés de partout, parce que les anciens ont l'habitude, donc je ne sais pas que les nouveaux là qui viennent, on va amener des nouveaux.
Les anciens, vous êtes devenus des 4x4.
Yes. Non mais sérieux, c'est un gros problème.
Ah, je sais. Inch'Allah. À part ça, si vous avez plus de questions, j'ai des questions. Pardon.
J'ai une question. Est-ce que la personne qui néglige une prière, elle est méfiante? Au moment de sa prière, au moment où elle néglige une prière.
Sache que ce sujet-là, sur laisser tomber la prière, il y a un désaccord entre les savants. La majorité des savants, ils ont dit, celui qui ne prie pas, il sait que c'est une obligation de prier, mais il ne prie pas, par fainéantisme. C'est un musulman. Tant qu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un musulman. Et une minorité de savants, ils disent, celui qui ne prie pas, ce n'est pas un musulman. Parmi eux, les ulama actuels de Saoudia, Cheikh Ben Baz, Ibn Uthaymeen, etc. Il y en a beaucoup qui disent, Ibn Qayyim Jouzi, etc. Ils disent que ce n'est pas un musulman. Moi, personnellement, Allahu A'lam, j'ai étudié profondément ce sujet. Moi, je penche du côté des savants qui disent que celui qui ne prie pas, ce n'est pas un musulman. Cheikh Ben Baz, il est allé encore plus loin. Il dit le sujet que tu as dit. Il dit, celui qui laisse tomber une prière, sans motif valable, jusqu'à que son temps, il est sorti de l'islam. Il en sort du hadith, « Man taraka salat ». Le hadith, il dit « salat ». Le Rasul n'a pas dit « celui qui laisse tomber les prières, man taraka salawat. Le hadith a dit man taraka salat. Faqat kafar. Cheikh Ben Baz, il prend de ce hadith que celui qui laisse tomber une prière, c'est un kafar. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit celui qui ne fait pas du tout la prière, c'est un kafar. Et moi, je pose juste une question. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha? Celui qui dit la ilaha Muhammad Rasulullah, il ne prie pas, c'est musulman. Bon. Si on vient à la personne lui dire qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, est-ce qu'il n'y a point de Dieu que Dieu? C'est faux. Il ne faut croire qu'en Dieu? C'est faux. La ilaha illallah, elle parle de ilah, al-uluhiyya, elle parle d'adoration, elle ne parle pas de croyance. Si c'était la croyance, je t'aurais dit oui. Celui qui dit la ilaha Muhammad Rasulullah, tant qu'il croit en Allah, il croit en Rasul, c'est musulman. Mais le problème de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle parle d'adoration. La ilaha illallah, ça veut dire point de Dieu, ne mérite d'être adoré. Elle parle d'adoration là, elle parle pas de croyance là. Alors dans ce cas-là, pourquoi Allah Ta'ala, il a fait sortir Iblis de l'islam? Aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Pourquoi Iblis, il croyait pas en Allah? Il pouvait très bien s'étonner de la prosternation, comme ils font beaucoup de musulmans aujourd'hui, par orgueil, je fais pas la prière. Il sait qu'il faut la faire, mais il veut pas la faire, par orgueil. Ben pourquoi Allah, il a fait sortir Iblis de l'islam? Pour une prosternation, il n'a pas voulu se prosterner, Allah il l'a fait sortir. Aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Et comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, il allait encore plus loin. Allah Ta'ala dit dans surat Maryam, dans surat Maryam, Allah Ta'ala dit fa khalafa min ba'dihim khalfun. Il y a une génération qui est venue après. Ils vont venir après. Adha'u salat. Ils vont laisser tomber la prière. Wattaba'u shahawat. Ils vont suivre leurs désirs. Ils vont laisser tomber la prière, ils la délaissent, ils s'en foutent, ils vont suivre leur désir. On leur a réservé une rivière. Rayyan, c'est une rivière qui est en plein milieu de l'enfer. Mais regarde le verset qui vient après. Sauf pour celui qui se repentit. Wa amana, qui devient croyant. Wa amila salihan. Il fait des bons actes. Ibn Qayyim al-Jawziyya, là, il dit Allah Ta'ala, il dit pourquoi il dit celui qui se repentit, il devient croyant. Parce que tout simplement Allah Ta'ala, étant donné qu'ils se sont amusés avec la prière, ils ont laissé tomber la prière, Allah il les a fait sortir de la croyance. Disait Ibn Hathami ce qu'il dit. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, sauf ceux qui se repentent et ils croivent, et ils font des bons actes. Mais ils croivent, ils croyaient. Ils ont laissé tomber la prière, c'est tout, mais ils croyaient. Allah il leur a enlevé la croyance. Et le hadith il est clair. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Et si on dit kufr, douna kufr, comme ils ont dit quelques ulama, ils ont dit oui, celui qui laisse tomber la prière, c'est kufr, mais c'est le petit kufr, c'est la petite mécréance, c'est pas la grande. On dit le hadith, il est venu, fi sahih muslim, man taraka salat faqad ashraka. Il est rentré dans l'association. Tu vas dire aussi l'association, une petite, une grande? La petite, on la connaît, c'est celui qui fait, mais pour se faire montrer les gens. Et là, c'est pas le cas. Donc moi, je pense du côté des ulama qu'ils disent que celui qui ne prie pas, ce n'est pas musulman. Je sais qu'il y a dans notre famille, le père ne prie pas, le frère ne prie pas, la sœur ne prie pas, la tante ne prie pas, etc. Mais ça ne nous empêche pas de dire la vérité. On a de la peine pour eux, on est inquiet pour eux, on est angoissé pour eux, mais ça ne veut pas dire que ma tante ne fait pas la prière, que je veux m'éloigner de la vérité et dire non, ben celui qui ne prie pas c'est musulman. Tu peux dire ce que tu veux. C'est la vérité ça. Je sais, et tous on est trempés dans ça. Rasoul Samy était trempé dans ça, il avait dans sa famille qu'ils n'ont pas cru. Les compagnons, ils détrempaient ça, il y en a dans la famille, ils n'ont pas cru. Ça n'empêche pas que moi, mon frère ne prie pas, que je dis que la prière, celui qui ne prie pas, c'est un kafir. Pourquoi? Je fais passer mon frère mieux que le din. Moi, je montre la vérité, et après Allah Ta'ala le guide. Si Allah il a prescrit qu'il le guide, Inch'Allah il le guide. Si Allah Ta'ala il a prescrit que je ne vais pas le guider, je peux dire ce que je veux. Donc moi, c'est ce que je pense. Allahu A'lam. Si vous n'avez pas de questions, moi jamais. Dans le sujet ou au dehors du sujet? En dehors du sujet, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Quand la personne il fait l'appel de la prière, Allahu Akbar, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Choum, s'enfuit. D'une allure jusqu'à que il pète. Quand la personne a fini l'adhan, shaitan il revient. Bon. Quand on entend l'iqama, c'est le deuxième adhan, shaitan il se remet, hein? Il repart, s'enfuit. Quand on a fini l'iqam, on dit Allahu Akbar, quel imam, shaitan il revient. Donc shaitan il n'aime pas l'adhan. Shaitan il s'enfuit de l'adhan. D'accord. Question qui se pose, comment ça se fait que shaitan il s'enfuit de l'adhan alors que la prière, il y a Allahu Akbar, les invocations, il y a la lecture du Coran, il y a l'inclinaison, il y a la prosternation, il y a le tesbih, il y a le dua, il ne s'enfuit pas. Comment tu vas me dire que l'adhan il influence plus que la prière? C'est pas possible. La prière, je suis en face d'Allah, là il est en face de moi. Et Allah Ta'ala il parle avec moi dans la prière. Qassamtu salat bayni wa bayn abdi. Quand mon serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah il dit mon serviteur m'a remercié. Et la prière elle est remplie d'invocations, elle est remplie de lecture du Coran. Dans le Coran il y a surat al-Fatiha. يا ايه الكرسي يا سي يا سا ما سفيك سان في با تسبيح دعاء سان في با الى اذان سان في كي مي دون اكسبليكاسيون
كومي سي دو بلوز امبورطون سان بيير Mais les familles, comme tu l'as dit toi, c'est plus important la prière que la donne, dans le sens, dans la récompense. Quoi. Dans la récompense. Et comme il sait que c'est ça, il vient te déconcentrer le plus possible.
Il vient pour me déconcentrer, je suis d'accord. Allez. Mais comment ça se fait que la force qu'elle a cette prière, que c'est l'un des piliers qu'Allah aime beaucoup, la prière, la salat, elle ne le fait pas fuir à lui. Laisse-le venir lui. Mais comment se fait que cette prière ne le fait pas fuir à lui? L'adhan, il l'a fait fuir. Comment se fait que la prière ne le fait pas fuir? Pourtant, l'adhan, j'ai dit Allahu Akbar. Dans la prière, j'ai dit Allahu Akbar. Dans l'adhan, j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah. Dans le tahiyya, j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah. Je dis Muhammad Rasulullah. J'ai dit Ashhadu Muhammad Rasulullah. Dans le tahiyya, j'ai dit Muhammad Rasulullah. Hayya ala salat, je cite dans le Coran des versets qui parlent de salat. Inna salat atana. Hayya ala al-falah, c'est pareil. Il y a des versets qui parlent de falah. Allahu Akbar, c'est tout dans la prière. Comment ça se fait qu'il ne se sauve pas?
Que tu appelles les gens à venir par la prière.
Oui.
Et alors que lui,
il devrait se mettre à travers leur chemin.
C'est mes buts de se mettre devant eux, derrière eux.
Mais le problème, c'est qu'il ne se met pas devant eux. Le problème, le hadith, il te dit, s'enfuit. Se sauve. Lui, il se sauve. C'est pas il reste devant la porte et il se met en face des gens. Non. Il s'enfuit. Hein? Orgueil. Eh bien, il devrait faire la même chose pour la prière. Il dit, comment? Moi, je n'ai pas voulu me prosterner, je vais aller me mettre devant quelqu'un qui se prosterne. Il m'en fout. Il y a des voleurs là. Ça va vite là. Tout simplement parce que Shaytan, il ne veut pas témoigner pour toi le jour du jugement. Parce qu'en Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dans le hadith, quand la personne il fait l'adhan, chaque chose, rotbin ou yabis, chaque chose sec ou le contraire de sec, humide. Chaque chose humide ou sec va venir témoigner pour toi le jour du jugement. Les arbres, les cieux, la terre, etc. Lui, il ne veut pas témoigner pour toi le jour du jugement. C'est pour ça que ça me fuit. Dans le livre de la prière, non. Tu dis ça va, frère, je suis là. طيب يا شباب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك